Merci Christelle de nous faire un petit topo sur ce qu'est l'épidémiologie B19 et l'actualité de ce virus qui a fait beaucoup parler de lui l'année dernière. Et on va s'écouter avec beaucoup d'intérêt.
Super, merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc, effectivement, ma petite mission ce matin, c'est de vous parler de la vision du biologiste de ce virus qui, finalement, n'est pas tant étudié que ça par rapport à ses petits copains. Donc, c'est un petit virus à ADN simple brun. On estime qu'à peu près la moitié des adultes en France ont rencontré ce virus une fois dans leur vie, et avec un cycle épidémique habituel qui est de 3 à 5 ans. Une atteinte des précurseurs érythroïdes, ça va être largement exploré tout à l'heure. Une transmission, attention, par voie respiratoire, hein, c'est pas du tout c'est un virus qui est responsable d'une éruption qui est bien connue des pédiatres, mais c'est pas l'éruption qui est contagieuse, c'est une transmission par voie respiratoire pour laquelle il n'y a pas ni traitement antiviral spécifique ni vaccin. Et c'est un virus qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Alors, pourquoi je suis là, je pense, aujourd'hui? C'est qu'effectivement, depuis juillet 2023 en France et dans de nombreux pays d'Europe, on est confronté à une épidémie très inhabituelle qui a été très active en 2024. Je n'ai pas encore des chiffres 2025, mais on a encore des nouveaux cas cette semaine. Donc, je pense qu'on est plutôt sur la décroissance, mais pas complètement. Et cette épidémie est vraiment inhabituelle parce qu'elle n'a pas le caractère saisonnier qu'on lui connaissait, et on relève également une recrudescence de cas graves, que ce soit chez l'adulte, on va dire préalablement en bonne santé, les enfants qui présentent des anomalies constitutives du globule rouge, mais également chez femmes enceintes et surtout leur fœtus. Et donc les raisons de ce caractère inhabituel ne sont pas encore tout à fait élucidées, même si on commence à avoir des éléments. Est-ce que c'est l'effet post-pandémie Covid avec la dette immunitaire qui s'est instaurée suite aux mesures barrières ou une évolution du virus? Alors ça, c'est juste pour montrer que c'était un problème qui était en tout cas européen et même un peu plus largement qu'européen, où on a vu une recrudescence des cas, donc ici en Israël et aux Pays-Bas, mais il y a eu aussi le Portugal, etc. Nous, les premiers papiers viennent effectivement des instituts de transfusion sanguine qui ont relevé, vous le voyez, une augmentation début 2023. Oups, pardon. Non, il n'y a pas de machin. Début 2023 et 2024, une augmentation de la présence de parvovirus B19 dans le sang des donneurs, qui sont des donneurs sains, évidemment, et donc a priori qui n'avaient pas été malades. Et vous allez comprendre pourquoi on va retrouver ce virus dans les prélèvements sanguins du don du sang. En France métropolitaine, donc, vous avez 2023, vous avez toutes les épidémies des dernières années. 2023, c'est la courbe rose là qui augmente en fin d'année, et vous voyez le noir, évidemment, c'est 2024 avec une chute brutale mais qui n'est pas complètement terminée. Donc ça, c'est les données au secours, donc c'est le nombre de passages aux urgences pour des suspicions d'infection par B19 chez les enfants. Il n'y a pas de surveillance, on va dire, structurée de cette infection sur le plan national. Donc il y a les données au secours, donc les passages aux urgences, et puis il y a également ce qu'on appelle pardon, les données 3 labos. Alors en fait, il s'agit d'un recueil systématique des données en fait de deux gros laboratoires français que sont Biomis et Cerba, des données agrégées qui remontent tous les mois, je crois, en tout cas très régulièrement, à Santé publique France. Et c'est un système qui existe depuis de nombreuses années, plus de 10 ans. Et je pense qu'à l'époque, ça devait être assez représentatif de ce qui se passe sur le territoire. Je pense que ça l'est un petit peu moins aujourd'hui avec la restructuration des laboratoires et les grandes plateformes qui se sont développées. Mais toujours est-il que voilà, c'est un indicateur comme un autre qui montre que effectivement, vous voyez, à partir de l'été 2023, on avait une augmentation du nombre de tests IgM positifs dans l'ensemble de la population, en tout cas les trois catégories qui nous intéressent, qui sont les enfants, les femmes, et puis il y avait un chapitre autre. Ce qui interpelle Santé publique France à ce moment-là, c'est un nombre anormal de décès par rapport à ce qui est constaté d'habitude. Alors c'est vrai que ça paraît pas anecdotique, mais 10 décès dans la période, c'est pas non plus énorme, mais vous voyez une mortalité qui a estimé avoir doublé entre les épidémies précédentes et l'épidémie 2023-2024. Ça, c'est nos données personnelles à l'hôpital Paul Brousse. Donc, c'est un service de virologie qui couvre l'ensemble des hôpitaux Paris-Saclay, donc Bicêtre, Béclère, Paul Brousse, où en fait on a relevé tous nos cas de PCR positive à parvovirus B19. Parce que c'est vrai que les IgM, on y reviendra, c'est pas non plus le marqueur le plus fiable. Vous voyez, avec ces petites épidémies régulières, et vous avez en rouge. En fait, le nombre de cas chez les femmes enceintes et donc cette explosion de cas 2023-2024 comme partout ailleurs. Alors, est-ce que cette épidémie est liée à une nouvelle souche de virus ? On commence à avoir un élément de réponse grâce à une publication d'une équipe à Necker, mais qui s'est concentrée sur le séquençage des épitopes qui sont importants pour la neutralisation du virus et la mise en place de la réponse immunitaire. Ils ont testé 27 échantillons et ils l'ont comparé avec des séquences GenBank de souches qui circulaient avant 2020. Ce qu'ils ont vu, c'est que finalement, comme ce qu'on connaissait du B19, c'est un virus qui évolue assez peu, donc il y a une faible variabilité. Il n'y avait aucun nouveau génotype ou sous-type identifié particulier. Et il n'y avait pas de différence significative entre les souches chez les patients qui avaient fait des formes graves ou pas graves. Donc finalement, l'épidémie et la gravité seraient plutôt dues à des facteurs environnementaux et populationnels plutôt qu'à des facteurs liés au virus lui-même. Toutefois, ça a été fait sur 27 souches d'un seul centre et sur une toute petite partie du génome. Et donc, il y a une étude qui est actuellement en cours multicentrique dans mon laboratoire pour séquencer le génome entier du B19 sur l'ensemble de l'épidémie, avec une étude multicentrique sur 8 centres et surtout qui inclut des labos à la fois privés et publics, et province et Paris, pour essayer d'avoir une meilleure représentativité de ce qui s'est passé. Donc, des réponses dans quelques temps. Alors, si je prends ma casquette maintenant de virologue, qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à outils pour faire le diagnostic ? Des trucs extrêmement habituels, la sérologie, IgG, IgM, et puis la PCR. Et puis, comme dans toute boîte à outils, il y a une notice un peu vieillotte, dont on n'est pas spécialement satisfait, mais dont tout le monde se contente à peu près jusqu'à il y a 2 ans, où vous voyez, surtout ce qui nous interpelle, c'est la courbe de la virémie en bas, qui a l'air de s'annuler à 14 jours, ce qui n'est pas du tout ce qu'on observe. Après, on peut se dire que c'est une évolution des techniques. Mais une cinétique d'anticorps qui est quand même pas tout à fait ce qu'on observe. Et puis, quand on fait la biblio, ce que je n'avais jamais fait jusqu'à l'année dernière, on s'aperçoit qu'en fait, ce graphe est issu d'une étude chez 7 volontaires sains qui ont été inoculés avec du B19. Vive les années 80, et seulement 4 avaient fait l'infection, et en fait ce graphe est basé sur 4 patients, enfin 4 personnes saines, enfin en bonne santé, qui ont été infectées intentionnellement avec le B19, et alors depuis, à ma grande surprise, toutes les publications ensuite ont repris le même article, sans finalement réexplorer un petit peu ces marqueurs. Et alors c'est vrai qu'on n'avait peut-être pas d'épidémie d'ampleur suffisante pour s'y intéresser, ça ne posait pas plus de problèmes que ça, on s'était habitué. Mais c'est vrai que du coup, dans le cadre de l'étude que je viens de vous évoquer, qui portera aussi sur le séquençage, on a mis à jour un peu la temporalité des différents marqueurs au cours de l'infection, et on a été regarder si l'évolution de ces marqueurs diffère selon le contexte clinique et la population étudiée. Alors, on a étudié, nous, 4 types de populations, donc les porteurs d'hémoglobinopathie, les patients immunodéprimés, les femmes enceintes et les personnes sans facteur de risque. Alors, je vous montre juste la partie, grossesse. Il y a des différences entre ces populations. Donc, en fait, l'interprétation des marqueurs, elle va être sensiblement différente en fonction du contexte. D'où l'importance de discuter avec son biologiste, de lui expliquer pourquoi on demande une sérologie B19 ou une PCR, avec, vous voyez, des IgM qui apparaissent dans un délai médian de 20 jours, un tout petit peu après la virémie, et des patients qui ont toujours des IgM, enfin la moitié des patients ont encore des IgM positifs 4 mois après l'infection. Ça, c'est ultra classique en viro, ça ne nous a pas troublés. Ce qu'on a montré, ce qu'on voyait quand même d'habitude, mais ce qu'on n'avait jamais montré sur un grand nombre de patients, c'est que cette virémie, qui est très élevée, eh bien, 6 mois après l'infection, 100% des patients avaient encore une virémie positive, alors certes qui était dite faible, c'est-à-dire 3 logs, là où au moment de la primo-infection, on est plutôt entre 8 et 12 logs, mais quand même 3 logs qui persistent plus de 6 mois après l'infection, dont on se pose la question si c'est du virus infectieux ou pas, et notamment dans le cadre de la femme enceinte, on n'a jamais relevé finalement de cas de transmission materno-fétale chez une patiente qui a fait une infection avant la grossesse, mais est-ce qu'on ne l'a pas observé parce qu'avant il y avait, finalement on n'était pas dans des contextes qui permettaient de le retrouver, ou est-ce que vraiment c'est du virus qui n'est plus infectieux passé un certain délai après la primo-infection, et c'est aussi quelque chose qui est en cours, qu'on va s'attacher à regarder sur des prélèvements itératifs chez certains patients, de regarder jusqu'à quel moment ce virus est réellement infectieux, et du coup voilà ce qu'on en a sorti. Effectivement, un graphique qui est en cours de publication, mais qui met à jour un petit peu tout ça, et qui a l'air de montrer, enfin qui montre, on va le dire, que la virémie, surtout pour un diagnostic un petit peu rétrospectif des infections, comme on peut avoir chez la femme enceinte, où on arrive un peu après l'infection aiguë, parce qu'il y a des signes échographiques, et bien une virémie qui semble plus intéressante finalement que le dosage des IgM. Puisqu'effectivement, elle va se positiver à partir de 7 jours, elle va persister beaucoup plus longtemps que les M. Et du coup, quelle va être son utilité ? Ben, en présence d'IgM, dans un contexte hors épidémique, là c'est vrai qu'en ce moment, quand on a les IgM, on n'est pas très inquiet sur le fait que c'est du B19, mais hors épidémie, vous savez que la majorité des IgM, toutes infections confondues, ne sont pas dues à des primo-infections, c'est de la stimulation polyclonale principalement. Eh bien, en présence d'IgM, une PCR négative exclurait une infection de moins de 6 mois. Et à l'inverse, en l'absence d'IgM, la PCR est pertinente si le contexte clinique est très évocateur, puisqu'on a vu vraiment des retards, contrairement à ce qu'on attendait, mais des retards à la séroconversion, à l'apparition des anticorps, là où la virémie est déjà extrêmement très positive. Alors je ne vous dis pas, hein, c'est un virus qui est un cauchemar des virologues, parce qu'avec ses 12 logs et sa solidité, ça nous pollue et ça contamine largement les hôtes et tout ça. Donc c'est vraiment un virus qui, en soi, qui n'est pas très dangereux quand on est en bonne santé, mais qui a manipulé quand même avec pas mal de précautions dans les laboratoires. Et donc au bilan, on en a déduit des algorithmes finalement maintenant pour la biologie qui sont en cas de signe clinique évocateur, donc là on parle de la femme enceinte, une sérologie qui doit être complétée idéalement par la PCR, en particulier si vous avez soit des indices d'exposition, enfin... Non, signe maternel évocateur, pardon. Donc elle a des signes cliniques, donc il ne faut pas hésiter à confirmer par la PCR, sachant que ne pas avoir d'IgM, avoir G+, M- au moment des signes cliniques, c'est probablement pas une infection récente. Hein. Quand on a une infection récente, les IgM sont toujours présentes. Ce qui se présente le plus souvent, c'est des histoires de contact. Alors le contact du contact du contact, ça c'est, je sais que c'est ça a été le quotidien pendant un certain temps, de « mon fils fréquente la classe, et dans la classe il y a », etc. Bon. Et c'est là où ça devient un peu compliqué à gérer. Ce qui est important, c'est d'avoir le sérum le plus ancien possible. Alors on dit habituellement, après un comptage, il faut prélever un sérum dans les 15 jours. Enfin, si on a un sérum avant toutes les histoires de comptage, en début de grossesse, c'est encore mieux, parce que voilà, on n'a jamais relevé qu'une patiente qui était immunisée en début de grossesse puisse faire une réinfection avec un risque fœtal. Donc une immunité antérieure, c'est quand même extrêmement rassurant et ça va représenter 50% des femmes, donc ça vaut le coup. Ensuite, si elle n'a pas d'anticorps, alors là vous ne pouvez pas vous fier au tableau clinique, c'est-à-dire c'est pas parce qu'elle reste asymptomatique qu'elle n'est pas en train de faire une infection. 50% des infections à B19, 30 à 50% sont totalement asymptomatiques, sans éruption, sans arthralgie. Et donc, il n'y a que la biologie qui va vous permettre d'exclure une infection récente suite à ce comptage. Et donc, de la même façon, avec un support de la PCR. Donc, j'ai envie de dire, il ne faut pas trop se priver. Et en même temps, l'inconvénient majeur, c'est que ça n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Donc, c'est vrai que dans le contexte hospitalier, on n'a pas trop de scrupules. Et dans le privé, c'est un peu plus compliqué. Alors, il y a... Voilà, on est en train de débrouiller le truc et probablement que ça va pouvoir être pris en charge assez rapidement. Et puis, en cas d'anomalie échographique évocatrice, bien, ça c'est le schéma habituel. Une patiente qui n'a pas d'IgG, ben, elle n'a pas rencontré le virus, donc les anomalies elles sont dues à autre chose qu'au B19. Par contre, quel que soit son état d'IgM, à partir du moment où elle est séropositive, ben, c'est possiblement une infection post-conceptionnelle, et tout ça c'est à explorer, notamment avec la virémie, éventuellement diagnostic anténatal. Mais voilà, les IgM, au moment où on constate... la nasarque ou la mort fœtale in utero, surtout, quand on arrive vraiment tard, les IgM peuvent tout à fait avoir disparu. Voilà. Le diagnostic de l'infection fœtale, lui, pose aucun souci. On fait des PCR dans tout type de prélèvements fœtaux. Finalement, le plus fréquent, ce n'est pas le liquide amniotique, c'est en général plutôt le sang fœtal au moment où, où on fait la transfusion, mais ça peut être aussi... On a pas mal de prélèvements d'acide fœtal. C'est une PCR qui est très sensible, très spécifique. Un virus qui est extrêmement solide, qui pose aucun problème de conservation. Donc ça, c'est extrêmement fiable. Voilà, donc je pense qu'il faut rester quand même sensibilisé sur la persistance quand même de la circulation de ce virus qui se prolonge de manière tout à fait inhabituelle. Ne pas hésiter à rechercher ces infections chez les femmes enceintes qui ont des symptômes ou qui sont exposés, et tout type d'éruption, hein, parce que une éruption à parvovirus B19, c'est pas quelque chose d'extrêmement caractéristique, ça ressemble à beaucoup d'autres éruptions maculopapuleuses, et puis pas hésiter à revenir sur les sérums début de grossesse. Et puis finalement, j'espère vous avoir vendu le fait que la PCR, en 2025, c'est vraiment le marqueur le plus fiable pour se dire qu'il y a un contexte d'infection quand même récente ou semi-récente à B19, avec après la réserve sur la charge virale. Il faut vous retourner sur votre biologiste un petit peu pour jauger avec lui si c'est vraiment peut-être plutôt une virémie persistante ou une infection plutôt récente, plutôt aiguë. Voilà, je vous remercie.